Le thème de l'immigration a traversé l'histoire du cinéma, un thème qui fut cher à certains réalisateurs issus d'immigration, tel Charlie Chaplin en 1917 avec Les Migrants, ou encore à Elia Kazan pour America, America en 1963. Chez les Français, on peut citer Yamina Benguigui pour Inch'Allah Dimanche ou Rachid Bouchareb pour Little Sénégal. Mais d'autres films ont été réalisés par des cinéastes n'ayant aucun lien direct avec le sujet. C'était le cas en 2009 avec Welcome de Philippe Lioret, qui racontait l'histoire d'un jeune Kurde tentant de traverser la Manche à la nage dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Un peu plus loin, en 2004, Arnaud Despalières réalisait Adieu, un film formellement très éloigné d'un Welcome. Il mêlait trois histoires, celle d'un camion, celle d'une famille de paysans auvergnats qui perd le plus jeune fils, et enfin celle d'Ismaël, dont on verra qu'il fait le trajet de l'Algérie où il est menacé jusqu'à la France. L'idée de ce scénario est venue à Arnaud Despalières quand il a commencé à lire des articles de presse dans les années 90 sur ces migrants qui voyageaient dans les remorques des 38 tonnes. Adieu n'est pas un film militant, il est précisément le contraire. Sa forme est véritablement cinématographique, usant de l'image et du son et du décalage entre ces deux matières. Une des forces d'Adieu, c'est de s'appuyer sur différents textes dits en voix off, recentré autour de l'histoire de Jonas et de la baleine, avec l'aide d'Herman Melville et Philippe K. Dick, qui évoquent l'immigration, plus généralement l'hospitalité, et notre société. Une manière de ne pas se complaire dans l'anecdotique ou le pur documentaire, et de toucher l'intemporel sur un sujet pourtant d'actualité. Nous avons rencontré Arnaud Despalières un court moment, il a bien voulu nous parler de ce film. Mêlé à cet entretien, on entendra le discours captivant d'Ismaël qui raconte l'histoire de Jonas à sa petite fille restée cachée en Algérie. Une émission consacrée à une forme de cinéma audacieuse, un cinéma sensible qui donne à penser sur un sujet qui mérite qu'on s'y attarde.
Arnaud Despalières, cinéaste.
1, 2, 1, 2.
Scénariste, réalisateur et monteur de films.
1, 2, 3.
Court, moyen et long métrage. Cinéma, télévision, documentaire, fiction, tout ça mélangé.
1, 2.
Alors avec vous, on va parler essentiellement d'Adieu, hein, classé comme votre deuxième long métrage, un film sorti en 2004. On va d'abord parler de l'origine du projet, tout simplement.
C'était un très vieux scénario. Enfin, c'est un scénario que j'ai transporté avec moi depuis quasiment 10 ans avant de faire le film. C'est assez difficile pour moi de dire exactement d'où c'est venu. Je pense que c'est probablement parti d'articles de journaux découpés. Je dirais les premiers articles où on a lu probablement que des camions étaient utilisés pour des migrants, par des migrants à travers l'Europe. Je dirais que ça, c'est le tout début. Évidemment, des lectures qui croisaient ça. Le souvenir très prégnant, très fort d'un film de Marguerite Duras qui s'appelle Le Camion. Le désir très simple de filmer des camions. Et puis un lent tressage de plusieurs histoires, puisque à l'époque je ne prétendais pas écrire de scénario. J'ai un peu changé depuis, mais à l'époque mon activité principale consistait à dévorer des livres, enfin à lire beaucoup, à prendre des notes, à noter des bribes ou des passages ou des scènes de livres principalement qui me touchaient, qui m'intéressaient, avec un matériau comme ça qui s'empilait de monter au sens de prendre des ciseaux et de la colle et de alors ça je l'ai fait, après je me suis mis à le faire sur ordinateur, de couper, de coller ensemble des textes et de voir et de construire et de tisser des dialogues et d'imaginer des scènes dans lesquelles ces dialogues prenaient, et en 10 ans c'est devenu un scénario, voilà, évidemment qui a connu des tas de formes extrêmement différentes, et il s'est trouvé que ce scénario s'est mis à raconter plusieurs histoires, je dirais dont 2 histoires principales. Des histoires qui, pratiquaient le même fleuve, mais pas dans le même sens. L'histoire d'un Algérien qui, pour échapper aux violences de ces années-là, en Algérie décide de venir se cacher en Europe et en France, en laissant sa famille sur place, et qui va donc raconter son histoire sous la forme de lettres adressées à sa petite-fille.
Tu me demandes des nouvelles d'ici. Ils ont tué la mère, détruit le centre d'apprentissage, brûlé l'école, tranché la gorge du vieil Ahmed et fermé son café. Ils ont tué les mères de plusieurs appelés qui les connaissaient et accroché leur tête à des plaques de signalisation routière. Il y a une semaine, un vieux m'a arrêté dans la rue et a pris le livre que j'avais à la main. C'était des poèmes de mon père. Il voulait m'en montrer la perversité cachée. Je me suis sauvé. Il a gardé le livre.
Et l'histoire d'une famille d'agriculteurs français. L'histoire commence la veille de l'enterrement d'un des frères d'une famille qui se compose un peu comme ces familles du western américain où on a un père de famille, une mère probablement morte ou absente, un ranch. On sent les gens de pouvoir, les gens d'argent, les gens puissants. Et puis une fratrie, là en l'occurrence il y a trois frères. Et leur histoire commence, je dirais, en plein dans les préparatifs très matériels de l'enterrement, de la cérémonie. Et les personnages se présentent au fur et à mesure que ces préparatifs arrivent. Et on va dire une troisième histoire qui n'est pas vraiment une histoire, mais en tout cas qui est un troisième segment, puisque j'ai parlé de 13, donc il en faut trois, qui est le monstre du film. Depuis sa fabrication dans une usine, c'est donc un grand, grand camion blanc dont on va voir la fabrication, qui va sortir de l'usine et qui va filer sur les routes de France. Et dont la trajectoire va rencontrer celle du travailleur migrant.
Ismaël, hein, ce personnage donc, qu'on voit très tôt. Alors vous commencez votre film évidemment avec une chaîne de montage de camions sur une musique qui est très, très, très métallique, préparée par Martin Wheeler, c'est ça ? Donc il y a cette chaîne de montage. Ensuite, on part très vite en Algérie, dans des couleurs très, très chaudes. Et on suit donc cet Ismaël. Alors vous avez collé au récit d'Ismaël, qui ne parle pas finalement dans le film, on ne le voit jamais parler. Vous lui avez collé un récit, donc celui de Jonas et de la baleine. Alors comment vous est venue l'idée finalement de lier son histoire ? Donc il quitte son pays. Il va se faire peut-être manger par la baleine, on ne sait pas. Mais en tout cas, comment vous avez collé ces deux récits, finalement ?
Il parle. On ne le voit pas parler, on l'entend parler. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée étant que c'est sa voix intérieure, c'est lui qui raconte. Voilà, on est dans sa pensée. Et en étant dans sa pensée, on voit ce qu'il fait. On voit certaines des choses qui lui arrivent. L'idée étant évidemment, puisqu'il raconte à sa petite fille, et il va lui raconter sous la forme d'un conte biblique qu'est l'histoire de Jonas, qu'évidemment par pudeur, un père ne va pas dire à sa petite fille toute l'étendue de la dureté de ce qu'il vit.
C'est pas toi, Ismaël, le fils de Haddou ? Je réponds que je connais pas de Haddou. Il demande comment je m'appelle. J'ai dit. Ismaël. Mais alors ton père c'est bien Haddou Ben Halal et ta mère c'est bien Mimouna. Je réponds que non. Il demande le nom de mon père. Je réponds que mon père est mort quand j'étais dans le ventre de ma mère. Il m'a regardé. Il a soupiré que c'était la volonté de Dieu et m'a tendu 2 pièces pour que j'achète à manger. J'ai dit que j'avais de l'argent, que j'avais à manger, que j'avais besoin de rien. Il s'est mis à crier. Comment tu as de l'argent et tu dors dans la rue comme les chats ? Tu es fou, quoi. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, le vieux chat, c'est toi. Et j'ai miaulé le plus fort que j'ai pu. Il s'est sauvé en disant qu'Allah le préserve des enfants de cette époque.
L'idée était de toucher le spectateur dans l'écart, justement, entre la façon très pudique dont il le raconte, et très distanciée, et la rudesse, la dureté, la cruauté, la tristesse des situations qu'on le voit vivre, qui sont des situations quasi documentaires, puisqu'on le voit donc suivre le parcours de quelqu'un qui se cache, qui vit dans des conditions dures. On le voit dans ce qu'on appelle, on le voit dormir dans des dans des lieux à peine décents de marchands de sommeil. On le voit, on le voit suivre tout ce qu'on sait, qui est le parcours des gens qui se cachent, qu'on a pu revoir à Sangatte, qui est encore le lot de tous les gens qui tentent de passer les frontières, qui tentent...
Hier, en rentrant, j'ai trouvé la chambre de notre fille saccagée, avec des menaces écrites sur les murs pour dire qu'il me tuerait. Leïla, mon cœur, personne n'aura l'idée de vous chercher là où vous êtes, mais tenter de vous rejoindre risquerait de les conduire jusqu'à vous. Si j'ai réussi à m'enfuir et que j'arrive en France, je serai au moins réconforté par cette idée que ce n'est pas pour être heureux, mais pour vivre dans une nouvelle inquiétude qui vaut peut-être celle dans laquelle nous vivons ici aujourd'hui. La France, je m'en fiche, je ne veux même pas savoir qui sont les Français. Sitôt arrivé, je me mettrai à travailler. Là-bas aussi, il y a des coins perdus. Au bout d'un an ou deux, j'aurai de quoi vivre jusqu'à ce que les choses deviennent autrement. Alors je reviendrai en Algérie. Leïla, mon amour, j'emmène avec moi tout ce que je sais de chez nous, des années d'une vie à laquelle je ne sais quand je retournerai. Et déjà, ça me paraît avoir été la vie d'un autre. Un autre qui aurait vaguement eu mon corps et mon esprit. Peut-être que le seul moyen d'être dans un endroit, d'y être vraiment, c'est d'en être loin et de le regretter. Dis à notre princesse que mes prochaines lettres seront pour elle. Serre-la pour moi contre toi, comme je te serre à mon tour contre mon cœur. Ton Ismaël.
Ce que vous n'avez peut-être pas dit, et sur quoi on peut peut-être revenir, c'est que l'idée, elle est qu'au fond, il y a aussi une deuxième manière de doubler les points de vue dans l'histoire. Il y a le point de vue du migrant, de l'étranger, il y a le point de vue des Français, des sédentaires. Il y a, on peut le dire, le point de vue... musulmans et le point de vue chrétien. Et très étrangement, il y a une histoire dont je savais bien qu'elle était un lieu commun aux deux cultures, qui est, il y en a, hein, qui traversent le Coran et qui traversent également la Bible et la Torah. C'est l'histoire de Jonas et de la baleine.
Il est bientôt l'heure de dormir. Veux-tu que je te raconte une histoire? Tu ne réponds rien, j'imagine. Que tu attends sagement que je commence. Il y a longtemps, vraiment longtemps, plus longtemps que tu ne saurais l'imaginer, Dieu s'inquiéta, car le mal de l'homme augmentait dans la grande ville de Ninive. Chaque acte, chaque pensée, chaque instant de Ninive en était imprégné. Jour après jour, le mal grandissait. Et l'ange de la mort se présentait déjà devant la face de Dieu. Mais avant que ne se livre la dernière bataille, Dieu fit comme les chefs de guerre lorsqu'ils se trouvent face aux armées ennemies. Il décida d'envoyer un messager pour parler une dernière fois aux habitants de la grande ville. Dieu s'adressa alors à Jonas, fils d'Amittai, et lui dit « Lève-toi, va vers Ninive, la grande ville, et parle-leur pour moi, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva aussitôt et se mit en chemin. Mais ce n'était pas pour aller à Ninive qu'il se mit en marche. C'était pour s'enfuir. Loin. Très loin. Là où il espérait que Dieu ne pourrait jamais le retrouver.
Si ça se trouve, cette histoire, elle s'est imposée à moi dès que j'ai lu les premiers papiers où j'apprenais que dans des camions-citernes vidés de leur fuel ou vidés de leurs pesticides, s'étaient cachés des migrants dont certains avaient failli périr étouffés, découverts par des douaniers, quelque part à la douane entre je sais pas, l'Allemagne et la France. C'était encore, c'était dans les années 90 que j'ai commencé à lire ces premiers papiers-là. Et immédiatement, j'ai pensé à la dimension mythique, légendaire de cette histoire. Et je me suis dit, bon, d'abord, ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que la question, au fond, qui fait que sur le globe, il y a des pauvres et il y a des riches, que pour être riche, les pays ont bien été s'enrichir avec, comment dire, en partie en appauvrissant les actuels pays pauvres, et qu'on sait bien qu'il y a un mouvement de reflux, et plus ça va aller, puisque l'écart entre les pays riches et les pays pauvres grandit, et puisque les pays riches se barricadent, et qu'ils sont minoritaires dans le monde, ce mouvement est très naturel. C'est presque un mouvement géologique. C'est un mouvement. Voilà, c'est pas très compliqué. Quand on creuse un peu au-dessous du niveau de la mer et qu'on est sur la plage, l'eau elle vient. Et c'est pas parce que l'eau veut venir. C'est une loi naturelle. L'eau n'a pas d'autre choix. Et je pense que le migrant n'a pas d'autre choix que de souhaiter venir là où il pense qu'il y a un espoir économique, etc. Là où je positionnais le film, c'était juste de dire, bon, je crois avoir vu des films bien, d'ailleurs, des films plus ou moins intéressants, etc., qui traitaient souvent sous un angle singulier de l'histoire de tel ou de tel jeune ou pas jeune, homme ou femme migrante. Mais ce qui est commun à toutes ces histoires, c'est son caractère mythique, c'est son caractère, je dirais, inéluctable pour les années à venir. Et c'est celui-là qui, à travers un cas particulier, m'intéressait de mettre en valeur, dans la mesure où je disais, mais ça n'est que le début de ce qui nous attend. Et donc, probablement, barricader les frontières n'est pas la solution. Il y a un moment donné, il va falloir, de gré ou de force, apprendre à partager.
Mais Dieu savait que Jonas aurait tôt ou tard le désir d'être visible, reconnu, avec une maison à lui et des papiers en règle. Et Dieu m'en adorait. Dieu s'adressa une dernière fois à Jonas et lui dit ceci. « Jonas, mon ami, regarde, te voilà de nouveau comme avant. Quand tu seras mort et qu'on t'enterrera, ta bouche ouverte posera encore la question « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Car tout cela sert des fins bien supérieures que tu ignores et qu'il te faut accepter sans les comprendre. Et tu resteras toujours comme ça, bouche ouverte, sans jamais rien pouvoir comprendre. Maintenant, j'aurais peut-être une chose à te dire. Ne te fais pas remarquer. Ne suscite pas notre attention. Demeure un inconnu pour nous. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, lorsque rien de tout ça n'aura plus d'importance, le rituel et les formes de ta chute seront rendus publics. Alors peut-être, à une époque où il n'y aura plus ni zone d'attente dans les aéroports internationaux, ni camp gardé par des policiers armés de mitraillettes, peut-être alors y aura-t-il un procès en réhabilitation, où on apprendra que tu n'as porté tort à personne, que tu n'as rien fait en réalité, sauf d'avoir attiré notre curiosité. La grande vérité, la vérité essentielle, c'est que malgré le grand nombre que tu représentes, tu ne comptes pas. Moi, je compte. C'est ça qui nous différencie. En conséquence, Jonas, mon ami, il faut que tu disparaisses. Et que moi, je demeure.
À la fin du film, il y a un discours. Enfin, là aussi, vous vous servez de l'histoire de Jonas, de la parole de Dieu. Et puis, avec un avion. Alors là, c'est pareil, on voit des images d'un avion qui se prépare à décoller. On le sait. Enfin, il y a Ismaël qui est à l'intérieur. Voilà, la baleine emporte le migrant. Enfin, le remporte chez lui. Les phrases qui ressortent, c'est « reste caché »,« moi, je compte, toi, tu ne comptes pas ». Enfin voilà, là il y a une vraie force quand même, hein, de cette voix off, on le rappelle, enfin, parce que vous utilisez énormément de voix off, il y a une vraie force et c'est finalement très très glaçant. Et on a l'impression que ça pourrait être un cinéma engagé, mais ça l'est à peine parce que vous utilisez finalement un texte très très ancien.
D'abord, c'est pas moi qui parle, hein. C'est la voix de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle à Ismaël. Dieu, quel Dieu ? Dieu qu'on veut, puisque enfin, Dieu, on le ventriloque suffisamment depuis des années. Donc oui, je reprends. En fait, je me suis servi donc de l'histoire de Jonas et de la baleine. Mais j'ai été pas directement la chercher dans la Bible, j'ai été la chercher chez un intercesseur entre la Bible et nous, qui est Herman Melville. J'ai été la chercher dans le Moby Dick de Melville, dans une traduction très particulière, puisqu'il s'agissait que ce soit une voix off qui était le... Il y a souvent, quand on travaille le rapport du son à l'image comme je le fais, et quand on donne une telle importance au son et une telle importance à la voix off, comme une sorte d'inversion des rôles respectifs de l'image et du son. C'est-à-dire que ça m'est arrivé assez souvent pour plusieurs films, pour Drancy à venir et pour Adieu, de dire, au fond, il y a beaucoup de moments dans ces films, donc dans Adieu, où le son est ce qui contient le plus d'images, ce qui porte le plus directement la narration, et où l'image, au fond, accompagne, comme habituellement le son. Et là, c'était intéressant pour moi d'aller chercher une version du texte de Melville, parce que les phrases de Melville sont pleines d'images très très fortes, et que il y avait comme ça cette espèce de souci constant de faire image, parce que au fond ce père s'adresse à un enfant, et c'était une sorte de conte pour enfant, voilà, une espèce de conte cruel, et que ça me semblait encore plus, il y a quelque chose comme ça d'un peu pas gothique, mais d'un peu, il y a un extrême lyrisme chez Melville, et on peut dire que chez Melville la littérature, la phrase fait image, hein, c'est quasiment du, enfin il y a une opération d'expérience sensorielle dans l'écriture de Melville, qui est débordante, qui est d'une très grande puissance, et je pensais qu'il fallait au moins ça, je dirais, pour rivaliser avec l'image documentaire qui était proposée par le film. Voilà. C'est-à-dire qu'en permanence, l'histoire telle qu'elle est racontée par le texte réinterprète, et donc elle devait avoir une grande force, parce qu'il fallait qu'elle ait au moins autant de force que l'image que voient les yeux, que l'image cinématographiée, hein, l'image... et voilà pourquoi j'ai été chercher le texte de Melville.
Tu te souviens, mon adoré, que le capitaine auquel avait affaire Jonas était un de ces hommes capables de découvrir le crime chez quiconque, mais qui, dans leur cupidité, ne le dénoncent que lorsqu'il s'agit d'hommes sans argent. Dans ce monde, le péché qui paye le prix du passage peut voyager partout et sans passeport, alors que la vertu, qui est pauvre, est arrêtée à toutes les frontières. Avant de porter son jugement, le capitaine veut d'abord soupeser la bourse de Jonas. Il lui demande le triple du prix habituel. Et Jonas est d'accord. Le capitaine comprend alors que Jonas est un fugitif. Mais il décide de ne rien dire, car il sait que sa fuite peut lui rapporter beaucoup. Quand Jonas sort sa bourse, le capitaine fait sonner chaque pièce d'argent, puis se dit en lui-même « En tout cas, cet homme n'est pas un faux monnayeur. » Sur quoi, Jonas est inscrit comme passager.
Plusieurs moments où vous utilisez donc cette voix off avec des images qui sont effectivement documentaires. Il y a une salve d'images documentaires à un moment précis où on voit des hommes en apparence immigrés qui sont sur des chantiers. Et là, ça fait directement référence au capitaine du bateau qui accueille Jonas et qui finalement sait bien que Jonas fuit quelque chose, mais à partir du moment où il a de l'argent, on va l'accepter. Donc là aussi, c'était... c'était vraiment, enfin, me semble-t-il, enfin, le texte correspondait là pour le coup très très bien à l'image, mais vous faisiez une autre proposition.
Oui, l'idée c'était comme un texte aussi, je dirais, cruel que le texte. C'est un texte cruel de la Bible. Hein, cette histoire est très cruelle. Il est l'histoire d'un. Enfin, je rappelle l'histoire au fond parce qu'on l'oublie. Jonas est un prophète. Jonas reçoit la parole de Dieu. Dieu parle à Jonas comme il a parlé à d'autres prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu choisit pour parler aux hommes. Voilà. Dieu ne parle pas à tous les hommes dans la Bible et dans le Coran. Dieu choisit des prophètes qui sont des intercesseurs, qui sont des traducteurs, qui sont des... Et donc, il intime à Jonas... l'ordre d'aller parler aux hommes pour leur dire qu'ils ne vivent pas bien. Et Jonas, qui sent que, d'accord, Dieu veut ça, mais qui connaît les conséquences réelles que peut avoir le fait d'aller dire aux hommes qu'ils ne vivent pas bien, c'est-à-dire qu'il sent qu'il y a un danger physique d'être maltraité, blessé, tué, qui a une peur physique d'avoir à remplir son rôle d'empêcheur de tourner en rond, de moraliste, de rabat-joie, d'empêcheur de profiter de la vie, prend peur et décide de se cacher. Voilà. Donc décide de ne pas répondre à la demande de Dieu, et d'aller ailleurs. Et l'ailleurs, c'est l'océan, c'est aller dans un autre pays, c'est donc partir en bateau. Et toute son histoire pour tenter d'échapper à la demande de Dieu, à l'ordre de Dieu, s'engage au fond assez bien avec un Algérien qui décide de ne pas répondre dans l'Algérie des années 90, à ce qu'on lui demande, qui est de se positionner vis-à-vis d'une foi musulmane, d'une foi musulmane, etc. Et il dit, mais je ne veux pas répondre à cette injonction. Je ne veux pas me positionner, je ne veux pas dire que je suis... ça ne m'intéresse pas. On peut dire qu'il y a à plusieurs reprises, on comprend que cet homme est un intellectuel, probablement un journaliste, fils d'un écrivain, probablement. Donc c'est un Algérien, je dirais, un peu éclairé. C'est quelqu'un qui a une conscience politique. Et tout d'un coup, il décide de refuser cette régression brutale et violente que tous les Algériens ont vécu dans ces années-là, et il se sauve. Et étrangement, j'ai tiré ce fil métaphorique, hein, et étrangement, tout ce que je pouvais, en continuant à raconter l'histoire telle qu'elle se racontait dans le texte de Melville, le texte de Melville étant une extrapolation du texte biblique, mais au fond assez proche de l'idée du texte biblique, ressemblait par la suite à, dès qu'il pose le pied en France, tout le monde se méfie de lui, tout le monde se... c'était une manière très cruelle de voir, je dirais, la vérité du sort du travailleur immigré clandestin à travers la réalité des images de type documentaire de ce qu'il vivait. Et il y avait comme ça, le texte de Melville était une espèce d'ouvre-boîte formidable à nous faire juste voir une certaine réalité qu'on voyait, le sens d'une, la vérité d'une réalité dont on perdait peut-être l'essence en la réduisant à du particulier, à de la statistique, alors qu'elle est une vérité philosophique de notre temps. Il y a un retour des pauvres, il y a un besoin, il y a une nécessité de partage et qui se fera de plus en plus dans le siècle qui va venir. Les frontières vont sauter, doivent sauter, et à terme, c'est complètement insensé de tenter de préserver ce qui d'ailleurs est étrangement probablement aussi le sujet du film que j'ai fait après, qui s'appelle Park. Il y a un moment, les riches ne pourront pas toujours se préserver des flots de pauvres. Et il y a une absurdité, c'est incroyable qu'on ne le voit pas plus. Il y a une absurdité de tenter de vouloir mettre des serpillères sous les portes et des verrous sur les portes qui ne contiendront pas les milliers de tonnes d'eau qui viennent. Il y a une chose qui ça n'est pas possible. Il y a une espèce d'aveuglement des pays riches. Il me semblait qu'en racontant cette histoire de cette manière-là, et en faisant une espèce de légende des temps modernes, nous venant de l'Antiquité biblique, ça faisait peut-être sonner un peu autrement à nos oreilles contemporaines la nécessité de nous mettre à penser avec sérieux cet événement comme un événement important qui nous arrivait et dont il fallait qu'on se tienne à la hauteur, qu'on soit capable de l'accueillir, tout simplement. Cette chose-là, elle a un nom, c'est l'hospitalité. Et on n'a pas le choix.
C'était un entretien avec Arnaud Despalières à propos de son film Adieu. Tous les extraits que vous avez entendus sont tirés de ce long métrage. Adieu est disponible en DVD chez Arte Vidéo.
Il y a la preuve ontologique, l'argument de Saint Anselme selon lequel, si un tel être peut être imaginé, l'argument biologique de Teilhard de Chardin sur l'évolution, l'existence même de l'évolution semble indiquer un concepteur. L'argument de Morrison, qui s'appuie sur l'hospitalité de notre planète. Forme complexe de vie. Les chances pour qu'une telle situation se soit produite par hasard mince. C'est l'argument téléologique, celui du dessin.